Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, le pic attendu est plus élevé qu'avec la souche historique. C'est ce qu'a indiqué la directrice de recherche à l'INSERM, Vittoria Colizza. Dans un entretien au journal du dimanche, elle alerte sur le fait que les variants vont rendre la gestion de la crise sanitaire encore plus difficile en avril. 5 millions de Français ont été vaccinés. C'est ce qu'a indiqué hier soir le Premier ministre sur Twitter. Le ministère de la Santé a fait état de 7 300 000 doses administrées, première et deuxième injections confondues. Jean Castex a conclu son message en disant, je cite, « C'est unique que nous vaincrons le virus ». Éducation, pour Jean-Michel Blanquer, la violence des jeunes serait pire si les écoles étaient fermées. C'est ce qu'il a indiqué dans un entretien donné aux Parisiens. Le ministre de l'Éducation a détaillé mener une action conjointe avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pour combattre le phénomène des violences aux abords des établissements. Les quotas de logements sociaux seront pérennisés au-delà de 2025. La ministre du Logement a indiqué que cette obligation des communes d'atteindre un taux de 20 ou 25% deviendra permanente. Elle a ajouté que cette mesure sera inscrite dans le projet de loi 4D sur la décentralisation. Elle doit être présentée en mai en Conseil des ministres. Politique, Fabien Roussel est candidat à l'investiture du Parti communiste pour l'élection présidentielle de 2022. Sa candidature, comme celle des autres, devra être proposée formellement aux militants lors d'une conférence nationale. Elle se tiendra les 10 et 11 avril prochains. Fabien Roussel est actuellement secrétaire du parti. En Russie, 150 élus locaux ont été arrêtés lors d'un forum d'opposition hier. Le forum intitulé « La Russie municipale » a été interrompu peu de temps après avoir commencé par la police moscovite. Il avait pour but de permettre aux élus d'opposition de préparer leur réélection l'an prochain.
RVE, le point sur l'actualité locale.
On commence tout de suite par Rambouillet Territoire, où dans le cadre de la transition énergétique, les récupérateurs d'eau sont fortement recommandés. En période sèche, c'est un outil idéal pour arroser le jardin. Rambouillet Territoire subventionne à hauteur de 30% sur le montant du matériel et dans la limite d'un plafond de 700 euros maximum par habitation. L'acquisition de ce matériel doit être d'un montant supérieur à 150 euros. Retrouvez le dossier de demande et plus d'infos sur le site de Rambouillet Territoire, www.rt78.fr, rubrique environnement, puis récupérateur d'eau. Ou alors par courriel, cycledelot@rt78.fr ou par téléphone au 01 34 57 24 82. La Caisse des écoles de Bullion organise une opération chocolat de Pâques fabriquée par un artisan chocolatier à Bonnel. Des chocolats pur beurre de cacao et sans conservateur. Les bons de commande sont à remettre à l'école ou en mairie au plus tard le mercredi 17 mars avec un règlement à l'heure du 13h public. Les colis seront à retirer en mairie à partir du 3 avril à 16h. Pour retrouver les bons de commande, rendez-vous sur le site Iliwap de la commune de Bullion. L'ensemble des bénéfices de cette action sera au profit d'une sortie pour les enfants des écoles de Bullion. On continue avec Épernon. Sachez que l'application mobile de la commune a fait peau neuve et est désormais disponible dans sa nouvelle version et complètement gratuite. Il s'agit d'un outil simple et pratique qui vous permet de profiter pleinement de votre ville. Vous y trouverez l'actualité de votre commune en temps réel. L'application fera très vite partie de votre quotidien. Enfin, je vous rappelle que le marché de Bonnel sera présent jusqu'à 13h sur le parking des écoles, ainsi que le marché de Clairefontaine sous la halle. Côté météo, il fera gris aujourd'hui avec de la pluie et des averses dans la journée, ainsi que des maximales allant jusqu'à 12 degrés dans la région sud-Yvelines. C'est tout pour ce Flash Info, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Passez une très bonne journée et un très bon dimanche sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carny.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, toujours fidèles au poste, hein, toujours fidèles au rendez-vous en ce dimanche 14 mars, c'était Tribune Foot la semaine dernière, et bien là ça va être tout vélo ce matin avec notre invité, Olivier Bourdin. Olivier, bonjour.
Bonjour à tous.
Un fidèle, un habitué, hein, puis on profite souvent du Paris-Nice, Olivier, pour faire un petit peu le point. Alors, bon, cette année c'est un peu particulier, il y a un an vous étiez là également comme invité, on s'apprêtait à vivre le confinement que l'on a connu, hein, le premier confinement. Un an après, on n'est toujours pas sorti de la pandémie, même si on vit avec le virus.
On vit avec, on essaie de vivre avec, oui. De s'adapter. Mais c'est vrai que puis la problématique, c'est qu'on voit pas la fin, le bout. Donc c'est compliqué de faire des objectifs, de faire des projets. Voilà, c'est mais bon, on essaye de s'en tirer. Même pas mal de présidents d'associations, c'est très très compliqué. Nous, on a encore la chance encore que nos pratiquants puissent pratiquer au moins en entraînement à l'extérieur, puisque le vélo on pratique en extérieur. Bon, il faut avec des restrictions, hein, maximum par groupe de 6. Ouais. Si je sais que c'est très peu respecté, mais faut savoir que c'est quand même par groupe de 6. Nous, on peut le faire encore, que d'autres activités, d'autres sports collectifs, en particulier en salle, eux sont vraiment restreints et bloqués. Donc voilà, c'est compliqué pour pas mal de choses, pour les associations, pour les athlètes, pour le monde de tous les jours, hein, parce qu'on le voit même quand on discute avec les municipalités, ça leur manque aussi. Ça manque aux municipalités, ça manque aux habitants, même si par moment, des fois, les habitants étaient un peu, ils nous respectaient parce qu'on organisait trop de courses. Là, des fois, quand on a eu l'occasion, qu'on a réussi à faire la manche de la Coupe de France féminine à la Selle des Bornes, les habitants étaient sur le bord de la route, ils se disaient, ouf, enfin, ça nous fait du bien.
Chose.
Voilà, ouf, ça nous a fait du bien, c'est ce qu'ils disaient, hein, c'était sur le bord de la route. Voilà, ils revoyaient, ils avaient l'impression que ça recommençait à revivre. Mmh. Donc voilà, il faut s'adapter, jusqu'à quand on ne sait pas. Voilà, on va espérer, c'est le but d'un sportif, hein, de même gérer dans la défaite ou dans les moments les plus difficiles, d'essayer de voir plus loin pour avoir des objectifs, pour continuer.
Alors, votre sport a été naturellement impacté, j'allais dire peut-être un peu moins que certains, vous en parliez, parce que c'est un sport de plein air.
Tout à fait, nous on a géré la chance, entre parenthèses, de pouvoir être en l'extérieur, donc on a moins de contraintes. On peut au moins le pratiquer à l'entraînement, en compétition, donc là, au niveau amateur, c'est complètement stoppé, hein, donc depuis le mois d'octobre, fin octobre. À part les professionnels et à tête de haut niveau qui puissent aller à leurs différentes compétitions, mais celles qui existent encore, hein, parce que quand on organise une compétition cycliste, on a un protocole Covid qui est très 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 important, hein. Là, on voit une bulle, on voit sur Paris-Nice, hein, avec ASO, oui. Maintenant, je dirais qu'il comprend vraiment à gérer le problème, qu'ils vont vraiment bien le gérer.
C'est pour ça que cette année, on a décidé de vivre le Paris-Nice un peu différemment, hein. Fallait faire un test PCR, ça aurait été compliqué pour les journalistes. Bon, il valait mieux le suivre comme on l'a suivi sur le bord de la route, c'était sympa. On est revenu aux sources.
Voilà, c'était bien. Donc, il y a certaines grosses associations qui ont réussi à s'adapter, hein, au Covid, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, donc on a malheureusement des organisations qui sont stoppées. Même des grosses organisations, mais ils sont stoppés parce que bon, impossibilité de mettre les contraintes en place, et autant pour les sportifs que pour l'organisateur, et puis les municipalités, c'est un peu frustrant de faire des manifestations et puis en voulant pas avoir de spectateurs. C'est ce que moi, ça m'a un peu vraiment frustré quand on a voulu organiser la Coupe de France féminine, c'était d'avoir le maximum de faire voir le sport féminin dans le sud d'Yvelines, et que les 15 derniers jours, la préfecture a dit oui, mais il nous faut pas de spectateurs. Donc il a fallu arrêter tout ce qui était niveau publicité, tout ça.
Il y en a eu quand même.
On en a eu un peu, mais voilà.
On y était, nous.
Voilà, on y était, mais c'était vraiment comme partout. Ouais. Hein, même si on a des restrictions, on arrive toujours à en avoir. On peut pas empêcher tout le monde, mais c'était pas autant le nombre de personnes qu'on aurait voulu faire découvrir cet événement sur le bord des routes, faire plus de publicité, faire d'autres animations autour. Voilà. Donc c'est un peu frustrant pour les gens quand on organise, les municipalités. Et toutes les contraintes qui s'y engendrent derrière.
Parce que vous avez un calendrier un peu particulier quand même, hein. L'année dernière, donc, le confinement est arrivé. Bon, il y avait les trois quarts des saisons pour les sportifs qui avaient été faits. Ils n'ont pas pu faire le dernier quart. Vous étiez au début de saison. Donc, ça vous a empêché pratiquement la moitié de saison.
Ça a commencé au tout début de la saison, au mois de mars. Et on a eu le droit de refaire des organisations et des compétitions, donc, à partir du 1er août.
Oui, donc juste à temps pour le.
Voilà, juste
la
avant
la Coupe de France.
Voilà, donc on a fait le mois d'août un peu quelques organisations, parce que c'est pareil, il fallait redéposer des dossiers aux préfectures, ainsi de suite, pour pouvoir réorganiser. Et on a pu courir jusqu'au fin octobre. Ouais. Donc après tout condensé en trois mois de compétition, c'était très compliqué, hein. Autant pour les organisateurs que pour les athlètes. Donc on a réussi à faire sur trois mois de saison. Et là, bon, on est pénalisé encore. Oui. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, au jour le jour, quoi, à la semaine, les préfectures annulent les compétitions du week-end et du week-end d'après. Donc là, les compétitions de ce week-end ont été annulées, plus celles du week-end prochain. Et on s'attend que malheureusement, lundi ou mardi, les décisions se prennent jusqu'à la fin mars. Donc, voilà, c'est pas au jour le jour, c'est à la semaine qu'on voit actuellement. Et oui. On ne sait pas quand on va pouvoir vraiment réorganiser. même si on a des espoirs, les bruits qui courent un peu, mi-avril, fin avril, qu'on puisse réorganiser, au moins certaines conditions.
Ouais, donc ça veut dire que la saison, elle repartirait alors, mi-avril. Si vous réorganisez, c'est que fatalement, il y aura des courses.
Ah bah tout à fait, oui. Nous, ouais. On a l'espoir. De toute façon, il faut avoir l'espoir. Sinon, c'est comme au départ d'une course, hein, ouais. On a beau dire, chaque coureur, au départ d'une course, il veut la gagner, même s'il sait qu'il n'y a pas, mais il veut la gagner. Donc, comme une compétition, on part au début d'un match, on veut le gagner, le match. Donc, ouais. On part partant. C'est une chose, c'est notre volonté, c'est il faut le faire, il faut la motivation, et tout en voulant redonner, ben j'irai à ce qu'est nous aussi notre priorité aux jeunes, de voir des jeunes refaire du sport, des activités, c'est notre but. Donc il faut qu'on soit partant, il faut rester positif, c'est pas évident. Je sais que beaucoup de présidents d'associations, ça devient très compliqué pour eux. Autant au niveau adhérent que niveau moral.
Il y a beaucoup de découragement pour certains.
Mais on le voit à un niveau même adhérent, on est quand même à 50%, 60% de nos adhérents habituels. Dans d'autres activités, c'est encore pire que ça.
Et oui.
Ce qui est compréhensible aussi à certains athlètes, de prendre une licence et pas pouvoir en profiter pendant une saison. Voilà, donc c'est ce qui entraîne des conséquences, hein, faut pas se leurrer, hein, même niveau budgétaire, hein, sur des associations, qui est très compliqué.
Oui, parce que vous, bon, si vous repartez à la mi-avril, bon, vous limitez un peu la casse. Il y a des sports qui, à l'inverse, donc ont recommencé au mois de septembre, se sont arrêtés fin octobre pour le deuxième confinement et n'ont jamais repris. Ça sera une saison blanche pour eux.
Tout à fait. Saison blanche. Oui, blanche, je dirais plutôt une saison noire, mais bon, malheureusement, c'est
blanche au niveau pratique compétition.
Voilà.
Ouais. Donc, Alors tiens, justement, on a une pensée pour notre ami Hervé Joly de Rambouillet Olympique, hein, parce que c'est pareil pour les courses à pied. Il y a plus d'épreuves de course à pied et de semi-marathon ou de marathon au moins jusqu'à l'été. Et on aurait dû vivre en temps normal dans la vraie vie le 36e semi-marathon ce matin sur Rambouillet. Donc voilà.
Oui, ben Hervé, j'ai eu la chance l'an dernier de pouvoir passer juste avant le confinement, d'avoir la très grosse organisation avant le confinement. Cette année, donc il y a eu, j'irais à peine cœur de pouvoir l'annuler, parce que bon, c'est une chose qu'il faut, quand t'es un organisateur, d'annuler une course, c'est toujours un crève-cœur. C'est pas volontaire. Parce qu'il y a des contraintes aussi à prendre, c'était annulé au mois de novembre, je crois. Parce qu'il y a des contraintes niveau organisation, niveau partenariat, niveau respect des athlètes, hein, si on organise, puis après qu'il faut rembourser avec les difficultés. Donc voilà, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre. Donc Hervé a pris des décisions, c'est très contraignant parce que c'est eux leur gros événement.
De toute façon, c'est toutes les épreuves de course à pied. Hein. C'est important, c'est un sport en plein air comme le vôtre.
Oui, mais si on peut se regrouper, comme nous, à part, et encore, je ne sais pas encore.
Il faut aller chercher les dossards dans une salle, dans un gymnase. Ça peut poser problème.
Tout à fait. Comme nous, on le fait à l'extérieur, mais avec un protocole vraiment spécifique. D'ailleurs, même si on reprend l'organisation, on aura vraiment un protocole spécifique, je pense, encore pendant un an ou deux ans, je pense minimum. Mais, donc, le sport, même chez nous, hein, on peut s'entraîner, comme on gérait la course à pied, on peut encore s'entraîner dehors. Mais les compétitions, c'est interdit pour nous, au niveau amateur. Ce qui est les seuls qui sont autorisés, c'est les professionnels et les sportifs déclarés sportifs haut niveau. Donc j'ai vu qu'il y a eu un championnat de France de cross aussi, un championnat du monde de cross qui a existé, parce que ce sont les championnats. C'est frustrant pour les amateurs.
Voilà, il y a des droits télé, c'est différent, quoi.
Des droits, et puis après.
Des sponsors, des partenaires, c'est différent. Voilà. Puis ce sont des gens, ce sont leur métier quand même.
Puis c'est leur métier, donc c'est plus facile d'imposer un protocole à des professionnels qu'à des amateurs de masse. En plus, c'est extrêmement compliqué. Oui, donc on a une pensée pour Hervé qui aurait dû aujourd'hui être sur le terrain avec toute son équipe. Pour faire un beau semi-marathon. Mais c'est reparti remise, je pense dans son moral, c'est reparti remise pour 2022.
Oui. Alors Olivier, donc si tout va bien, vous allez pouvoir donc réorganiser rapidement. Alors c'est peut-être compromis pour enfin.
La décision sera prise dans la semaine, en début de semaine, par la sous-préfecture de Mantes. Hein, mais bon,
très compliqué.
Ça doit être compliqué, même si on a des autorisations, même après avec les municipalités, c'est compliqué, parce que je comprends aussi que d'un seul coup, organiser des événements sportifs, alors qu'eux, ils sont obligés de tout arrêter, un événement culturel, social, tout. Donc, c'est très compliqué de repartir D'ailleurs, ce qu'on s'est affronté des fois, hein, pourquoi on a le droit de faire du sport et on n'a pas le droit d'ouvrir des cinémas, on a le droit d'ouvrir. Voilà. Donc je comprendrais aussi que de ce côté la municipalité arrête. Donc voilà, la décision sera prise cette semaine. Et puis après, se relancer sur des projets. Pour le prochain projet, ça sera la Sud-Yvelines,
oui, Rambouillet Territoire. Parler. Ça aura lieu, parce que c'est le mini-tour. Ça nous donne un petit avant-goût de Tour de France, hein, la Sud-Yvelines. Ça va avoir lieu ou pas?
Ben nous, le but, hein, c'est nous on va la programmer. Hein, ça sera programmé le week-end de l'Ascension. Donc on est en train d'essayer de rebasculer avec les différentes municipalités. Donc je remercie les municipalités qui veulent bien nous accueillir, de faire les efforts. On travaille ensemble, hein, pour essayer de pouvoir réorganiser, parce que c'est pas évident de pareil des municipalités de se réouvrir au public.
Alors tiens, j'ai une question. Ça va bien avec les nouvelles municipalités. Il y a beaucoup de municipalités nouvelles qui sont mises en place. Les rapports sont bons. Ça va?
Bah, j'irai le problème du Covid.
Vous connaissez, on a du mal. Donc c'est pas
et j'irai, comment, j'ai eu plusieurs élus. Ce qui était un peu pénible, c'était le mois des vœux, le mois de janvier des vœux. Ça nous permettait de reprendre contact avec les municipalités, les nouvelles, les anciennes, pour passer un peu les, j'irai, les passations de pouvoir et les consignes. Donc c'est très compliqué. On arrive à avoir des contacts, mais bon, pareil.
On se connaît pas forcément.
Pas forcément. Eh on se connaît beaucoup moins qu'avant.
Bah oui.
Et il va falloir retravailler, j'irai, ce qui est du travail de 15 ans de terrain avec les municipalités. Ben, il va falloir pas reprendre à zéro, parce qu'il y a certaines municipalités, ça se passe très bien. On a toujours gardé les contacts, hein, parce que tout n'a pas changé non plus dans le sud des Yvelines. Mais avec les nouvelles,
beaucoup,
il va falloir
quand même, hein, beaucoup, hein.
Oui, mais il va falloir, oui. Donc il va falloir, ben, reprouver notre sérieux, voilà, refaire voir nos compétences auprès des nouvelles municipalités. Mais bon, j'ai confiance dans le Sud Yvelines. Il y a toujours une mentalité des différentes municipalités qui ont toujours été positives. C'est ce que je disais, hein, en voulant réorganiser donc la Sud Yvelines, on s'aperçoit qu'on a un bon contact. Le groupe Rambouillet Territoire, hein, je pense, a une bonne ossature, une bonne mentalité. Donc on voilà.
Bon, si ça a lieu, ça sera
le week-end de l'Ascension. Donc si ça a lieu, donc les projets pour le moment, ça serait sur Poigny. Le Perret, Orphin, voilà, c'est son. Mais bon, les parcours ne sont pas encore définitifs. Pour qu'on soit définitif, on va essayer de les travailler encore cette semaine pour les valider. Voilà, parce qu'il faut quand même déposer les dossiers à la sous-préfecture. Hein. La sous-préfecture, elles ont des temps incompressibles de 60 jours, hein, même en confinement ou hors confinement.
Et puis il faut que vos saisons reprennent. Si ça reprend pas la saison mi-avril, c'est râpé, quoi.
Bah oui, on peut reprendre après sur la Sud Yvelines au mois de mai. J'irai comme on voit.
Faut que ce soit repris.
Voilà, comme on a vu, les professionnels ont repris sur des grandes compétitions tout de suite. Hein, au mois d'août, ils ont repris sur les grandes courses, les grandes organisations. Donc voilà, c'est tout de suite dans le vif du sujet. Bon, après, c'est niveau athlète, ils sont prêts. Hein, ils sont sur les certains blocs. Ils sont sur ça. Bon, après, niveau physique, ils seront peut-être pas aussi bien qu'ils pensaient. Mais voilà. Mais si ça reprend, je pense qu'on aura des grandes, comme on dit, là, on verra les bananes sur les visages des gens.
Voilà, bah, vous nous tiendrez au courant, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, il y aurait la Sud Yvelines, et puis après, il y aurait peut-être encore cette épreuve féminine de Coupe de France.
Ben, nous, nos projets, notre calendrier sur 2021, donc, la Sud Yvelines, le week-end de l'Ascension. Le projet, puis bon, ce projet est vraiment concret, et puis là, j'espère que, de toute façon, on est quasiment sûr, c'est d'organiser les championnats d'Île-de-France des jeunes, c'est-à-dire minime, cadet, junior, sur la commune de Bullion. Donc là, c'est vraiment un projet, ça sera le 26 juin.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment le projet, puisque c'est un championnat, en plus, je dirais, on a encore plus de poids, et puis d'accueillir sur... c'est un projet qu'on avait on avait voulu le faire en 2020, mais avec le confinement, on n'a pas pu le faire. Donc on a relancé avec le maire de Bullion... Oui. Monsieur Caris.
Oui, qu'on salue, parce que c'est vraiment un fondu de sport.
Ah bah, fondu de sport, tout sport, hein, tout sport, tout sport.
Il a une petite prédilection pour le ballon ovale, il doit être un peu déçu de la défaite du 15 de France hier, mais enfin
bon. Ouais, bon, on est tous déçus, mais bon, on en parlerait, mais bon, il y a toujours un petit pic à chaque fois pour nous faire perdre.
Face aux
Anglais. Fois, voilà. Enfin, mon dilemme, enfin, maintenant, la première fois qu'on a un arbitre vidéo qui nous modifie un essai. Enfin bon. Donc, avec Bullion, on va essayer de réorganiser le championnat d'Île-de-France des jeunes, donc minime cadet junior, sur toute la journée. Ensuite, donc, on aura une course sur le Perret en Yvelines, les prix des docks qu'on fait tous les ans depuis maintenant 23 ans. Et la grosse organisation, puisque je dirais le fait qu'on notre organisation de Coupe de France féminine l'an dernier s'est très bien passée, ça a été très bien perçu par toutes les compétitrices, hein, de France, hein, puisque là c'est vraiment les compétitrices de France et même plus, puisqu'on a eu des Belges qui sont venus. Même des championnes du Venezuela, championnes d'Afrique du Sud qui étaient présentes. J'étais super contente de cette organisation, niveau parcours, niveau structure. Le terme qui revenait régulièrement, c'est qu'on a eu une course pour nous. Habituellement, je dirais, on est un peu le déclin des hommes. On nous fait un peu des courses un peu au rabais. Et là, on a eu, nous, de toute façon, l'association du club de Poigny et puis du comité départemental, c'est que nous, la sécurité, c'est la même pour que ce soit un minime, cadet, un pro, tout ça. Donc cette course-là, on a assuré, je remercie encore grandement les gendarmes qui nous ont vraiment aidés sur cette manifestation, puisque pour assurer la sécurité. Et donc les filles ont dit, on a pu faire notre course pour nous. On se sentait en sécurité, donc le parcours était idéal pour eux. pas trop dur, mais complètement avec des
et
bons.
Je peux vous dire du très haut niveau. Hein.
Du très bon niveau, puisque celle qui gagne, c'est quand même vice-championne de France professionnelle. Celle qui a animé la course et qui a été championne du monde de cyclocross espoir. Mmh. Donc on avait un beau plateau. Bon, cette année, ça sera au même jour que les championnats du monde professionnels, donc on aura encore un plus gros
donc
plateau.
Le 26 septembre, alors.
Ça sera le 26 septembre.
Ouais.
Et donc, cette organisation en 2020 qui s'est très bien passée, très bien reconnue, la Fédération française de cyclisme nous a sollicité pour effectuer la finale de la Coupe de France féminine, qui est un label de 6 courses. Mmh. Il y a 6 courses chez les hommes et 6 courses chez les femmes. Donc, on va avoir le label Coupe de France nationale pro. C'est un honneur pour notre club, une reconnaissance de toutes les organisations qu'on fait depuis un nombre d'années. Comme je dis, c'est un honneur pour notre club et puis les communes qui nous aident pour le faire, parce que j'irais sans les communes, nous ne pouvons pas organiser. Donc notre club, les communes, les bénévoles qui puissent organiser, et puis les forces de l'ordre qui nous aident aussi sur ce chemin. Donc cette grosse organisation fin septembre, le 26 septembre, on garde le même principe, le même parcours. On nous a demandé de rajouter un sprint, un classement par sprint. Donc on va faire un classement par sprint. Et donc on a des partenaires on est en discussion avec des partenaires pour l'effectuer. Voilà, donc ça sera cette grande compétition pour nous et qui nous a obligé un peu aussi dans notre calendrier des courses de repousser d'une semaine la Gentleman de Poigny-la-Forêt.
Ah oui, c'est vrai.
Donc
ça sera début octobre. Là.
Voilà,
elle a déjà été, hein, je crois.
Oui, les premières étaient week-end du mois de novembre, du 1er novembre. Donc là, ça sera au mois d'octobre. Et donc avec, on a repoussé avec la fédération, donc avec, j'irai.
Une des rares gentlemen voilà. Qui existe. Hein.
Et aussi la promesse d'avoir des gens de la Fédération française de cyclisme qui seront présents sur cette course, puisqu'on d'accord. a repoussé à leur demande, et d'avoir un beau plateau niveau champion de France. Mm-hmm. De ce côté-là, on va y travailler, on verra un peu plus au mois de septembre, voilà, mais certainement un beau plateau, et avec aussi un projet de faire la gentleman des élus. Mm-hmm. Qu'on avait essayé de lancer l'an dernier, mais dans le confinement c'était un peu compliqué de faire avec en VAE, avec vélo d'assistance électrique pour les élus, d'essayer de leur faire un peu pour leur remercier un peu de toute l'aide qu'ils nous donnent tout le long de l'année pour nos courses.
Bon, ils ont souvent participé à la gentleman, hein. On a été là témoin, hein. Les élus y ont souvent participé.
Tout à fait, on a eu tous nos élus, nos députés, nos maires, conseillers départementaux, régionaux, et des grandes vedettes, hein. On a quand même eu des super champions qui ont participé.
Laurent Fignon était venu, je crois, il y a très
Laurent
très longtemps.
Laurent Fignon, il était junior, il était venu avec...
Bah, il avait gagné une course à Poigny, on s'en rappelle.
Il était parti tout seul, on l'a jamais revu.
Oui, c'est ça.
Non, voilà. Mais on a eu toujours de très grands champions au niveau coureur, et puis niveau élus, et qui sont toujours très très présents.
Mmh. Alors, cette épreuve féminine, on se rappelle qu'elle avait eu lieu fin août entre deux étapes du Tour de France, hein, puis ça n'avait pas empêché qu'il y ait des succès. D'ailleurs, on peut retrouver ces interviews dans nos podcasts, dans notre émission de rentrée.
Tout à fait, on avait eu 150 filles au départ.
Hein, fin août, entre deux étapes du Tour.
Ils venaient vraiment de toute la France, hein, puisque ils ont une obligation, tous les clubs qui ont le statut national pro, ils sont obligés de présenter une équipe. Et on a la chance de pouvoir aussi inviter quatre équipes professionnelles. Hein. Donc cette année, ça sera encore plus facile puisque ça sera au moment des championnats du monde. Donc il n'y aura pas de course professionnelle ce jour-là. Mm-hmm. Donc c'est un peu plus facile d'avoir des clubs professionnels ce jour-là. Des filles qui venaient donc de Belgique. Et puis comme dans chaque club France, on avait la championne du Venezuela, championne de l'Afrique du Sud. Voilà, des très très, très très un très bon niveau, un très très beau plateau pour une première. Mm-hmm. Et qui a été vraiment... super bien apprécié pour tout le monde, hein, pour les gens, le peu de spectateurs qu'on a eu, malheureusement avec le confinement qu'on était obligé de réduire, les municipalités qui étaient très heureuses, hein, au départ, j'ai encore, je dirais sur mon bureau, j'ai la photo de toutes les municipalités, de tous les élus au départ de cette course, et puis la remise des récompenses à la salle des bornes avec monsieur le maire qui nous a accueillis à la salle des bornes, je veux lui remercier encore grandement de pouvoir nous avoir accueillis cette année.
Et puis vous avez organisé il y a quelques semaines, je crois Olivier, en cyclocross.
On a été sollicité.
Vous avez été en partenariat avec nous. Voilà.
C'est-à-dire que en condition actuelle, il y avait prévu le championnat de France cyclocross des jeunes, qui aurait dû se situer à l'INA ou l'UNA, je ne sais plus, dans le Nord, qui a été obligé d'être annulé au début janvier. Et dans l'urgence, la Fédération française de cyclistes, qui est à son siège à Saint-Quentin, a sollicité le club de Saint-Quentin en Yvelines, Thierry Fabre, et le comité départemental des Yvelines, pour savoir s'il y avait une possibilité en urgence. Faut savoir, une organisation comme ça d'un championnat de France, en principe, c'est 6 à 8 mois d'organisation, hein, de préparation. Et là, le challenge, c'était en 8 semaines de pouvoir essayer de l'organiser, avec une butée, avec une épée d'Amoclès d'être annulée à la dernière semaine. d'organiser le championnat de France de cyclocross, donc sur la base de loisirs de Saint-Quentin. Et donc, ben, le challenge Thierry Fabre de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis le comité départemental l'a pris. Il nous a sollicité pour lui donner un coup de main pour l'aider, parce que ça a pu se faire qu'avec 4-5 clubs des Yvelines, hein, et le comité départemental des Yvelines. Et donc, le challenge, on l'a pris en compte, on l'a remporté, puisque ça s'est super bien passé. Bon, une grosse organisation, la dernière semaine, c'était très physique, hein, très préparer un championnat de France cyclocross. Faut savoir que c'est barriéré partout, hein, c'est des...
Bah oui.
C'est géré, c'est haut niveau, on a des réglementations UCI, donc ces barrières sur 2,8 km qu'ils faisaient des deux côtés, voilà, c'était très compliqué. En plus, il n'est pas fait très beau pendant la semaine avant. Heureusement que le week-end, par contre, on a eu un super temps de température, on a eu du 18 à 22 degrés, et les jeunes, voilà, c'était super de voir les jeunes présents, de pouvoir faire leur championnat de France, voilà. Donc c'était un plaisir de pouvoir organiser. Même nous, notre côté, du côté des bénévoles, on a retrouvé aussi des gens qui disent « Ouf, enfin, on peut ressortir pour faire quelque chose ». Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les gens, ils étaient contents d'avoir une manifestation, revoir vivre un peu.
Allez, on descend de bicyclette, on marque une petite pause musicale et une petite page de pub, et puis ensuite, on va refaire la deuxième moitié du parcours. Hein, on y va.
Tout à fait.
Les beaux jours arrivent. N'attendez plus et préparez leur arrivée. La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie, reconnu au Grenelle de l'environnement, situé au Péray en Yvelines, vous propose une offre spéciale du 1er au 31 mars 2021. Besoin d'une terrasse ombragée? Profitez de 20% de remise sur toute la collection de stores de terrasses FranciaFlex. Besoin de privacité dans votre jardin? Profitez de 15% de remise sur toute la collection de portails aluminium custom. Le tout garanti 100% fabrication française. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits, voire conditions en magasin. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, au Péray en Yvelines.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie, bijouterie, joaillerie, Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Les enfants sont notre avenir. Faites un leg ou transmettez une assurance vie à la chaîne de l'espoir.
Appelez le 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
RVE 103.7.
Desire, a man who knows what I require, has the thing that I desire. there are things in life that are rent free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass.
Vous écoutez RVE sur 103.7. RVE 103.7.
Effectivement, il est 10h31, pardon, nous sommes avec Olivier Bourdin, président de la section Poignée Rambouillet Sexisme. Olivier, est-ce que les partenaires vont vous être fidèles? Parce que il y a beaucoup d'associations sportives qui ont peur, justement, que des partenaires les lâchent, et à juste titre, hein, on peut en comprendre certains. Vous, c'est une crainte aussi?
Ah bah c'est une crainte bien sûr, hein. Notre budget malheureusement n'est pas encore fini, hein. On est toujours en discussion avec certains partenaires, les budgets sont pas faits et pour eux bah, ça c'est compréhensible, hein. Dans les conditions actuelles les entreprises sont pas non plus florissantes, hein. Il y a des priorités pour chez eux aussi, hein. Puis gérer le partenariat, le sponsoring, c'est une chose qui gérer passe sur les dernières lignes d'un budget. Donc voilà, donc non, c'est une très grosse crainte.
Ouais, il va y avoir des choix puis des coupes sombres, hein, à faire pour ces grands organismes, ces grands partenaires, hein. Ils vont encore plus cibler que d'habitude.
Tout à fait, là, ils vont encore plus avoir des restrictions. Déjà, on arrivait déjà depuis quelques années, c'était concept compliqué, hein, déjà au niveau partenariat, d'avoir de justifier des investissements. Donc c'était déjà compliqué avant. Alors là, maintenant, c'est encore plus compliqué la crise actuelle. Et puis voilà, le phénomène, voilà, c'est. Et puis après, il y a des partenaires qui préfèrent aller dans le plus gros niveau qu'ils aient des retombées médiatiques. Hein. Faut pas se leurrer, hein. Faut avoir des retombées maintenant. Donc oui, non, c'est un gros souci, un gros sujet. Notre budget, nous, les prévisions sont faites maintenant. Est-ce qu'on pourra les concrétiser? C'est compliqué.
Oui, tous sports confondus, il y a des épreuves qui vont fatalement disparaître.
Tous sports confondus, parce que c'est compliqué d'arrêter une épreuve. On le voit même au niveau administratif quand on va à la préfecture. Votre épreuve a eu lieu l'an dernier, oui. Donc bon, là, c'est plus facile, on reprend un dossier, on rajoute 2-3 choses. Mais quand une épreuve a été suspendue pendant un an, c'est compliqué au niveau organisationnel de pouvoir faire, et niveau partenariat, de pouvoir refidéliser, d'avoir des partenaires qui des fois ont investi dans une épreuve et qui s'est annulé au jour J, que n'ont pas eu le retour qu'ils escomptaient, hein, sur leur investissement. Donc c'est très 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 compliqué, il va y avoir des pertes en ligne, hein, c'est qu'à le dire.
Alors vous avez attaqué cette saison, cette année 2021, cette saison 2021, à combien de licenciés?
Bah là actuellement on a la chance, on dirait entre parenthèses, c'est que l'école de vélo fonctionne très bien.
Ça c'est bien.
On a Luc, hein, qui s'occupe bien avec, on a en association avec le CTR, avec Didier Josset. Donc on a les jeunes.
On les salue tous les deux. Hein.
Tout à fait, on les salue tous les deux ce dimanche. Donc les deux s'en occupent très très bien avec l'aide de parents, de dirigeants. Donc on arrive un peu à remonter un peu notre effectif avec les jeunes, hein, j'irais depuis 6 ans jusqu'à 14-15 ans, jusqu'à minime cadet. On a quelques cadets aussi qui arrivent en compétition, on a des juniors, on a un junior qu'on suit de près, puisque là il est déjà sélectionné en sélection départementale et à faire des courses, gérer des belles courses, hein, puisqu'on l'envisagement, le projet c'est de le faire faire par Paris-Roubaix, donc en junior. Donc voilà, donc on a des jeunes, chez les jeunes, ils sont au rendez-vous. Par contre les adultes, là on a une perte énorme niveau adhérent, niveau adulte.
C'est-à-dire combien vous êtes à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, on est avec les jeunes, on doit être à 30, 37, 38 adhérents.
Contre combien dans
d'habitude,
le passé?
D'habitude, on est à 58, 60. Ah ouais,
c'est-à-dire que certains n'ont pas voulu payer leur licence, comme ça se fait dans beaucoup de sports. Hein.
Tout à fait.
Il y a une désaffection, il y a l'incertitude, alors on se dit, bon, on ne va pas être remboursé, on va payer pour rien, donc on attend, puis on ne paye pas. Quoi.
Voilà, c'est très compliqué, parce que c'est surtout qu'on ne voit pas la butée, c'est ça. On nous dit, dans un mois, c'est bon, tout repart, ok, ben là, les gens vont radhérer, vont se relancer. Et là, on ne voit pas du tout de butée. Même nous, on commence à en faire des organisations. Une semaine avant, on est obligé d'annuler parce que, bon, pour des restrictions, ce qu'on comprend, hein, tout à fait. Mais voilà, c'est très compliqué de pouvoir assumer et leur vendre, gérer entre parenthèses, leur vendre un espoir de faire des courses.
Parce que le vélo est un sport cher, il faut le dire aussi. Hein. Pour celui qui veut faire la compétition, bah, un vélo, c'est 4 000, 5 000 euros.
Bah, ils sont très légers maintenant. Maintenant, il y a des vélos qui arrivent à moins cher. On a des marchands, des vélocistes qui font des très bons vélos.
D'occasion, hein,
d'occasion, mais même à durée, maintenant, à 2 000 euros, on arrive à avoir des bons, pour débuter, des très bons vélos. Hein. Mm-hmm. 2 000, 3 000 euros au maximum. À 2 000 euros, on arrive à avoir des très, très bons vélos pour débuter. C'est toujours un investissement, c'est un équipement autour, c'est des déplacements à faire. Bah oui, c'est un sport qui est pas donné. Hein. Je dirais, c'est pas on achète un short, un maillot, puis on fait sa saison.
Là, il y a le coût du matériel aussi qu'on peut casser, qu'on peut changer,
et puis les engagements aussi aux courses, aux compétitions.
Puis comme vous l'avez dit, il faut aller se déplacer sur place. Donc
Tout à fait. Et le moins le peu d'organisation maintenant, toutes les organisations qui diminuent de plus en plus. Hein. On avait déjà un phénomène avant le confinement, mais là, ça devient catastrophique. Donc des fois, avant, on faisait 15 km, 20 km pour faire une course. Maintenant, on est obligé d'en faire 60, 80, même 100 km pour faire une course. Donc voilà, ça devient très compliqué.
Est-ce que la chance de votre sport, c'est pas aussi sa diversité? Il y a la piste, il y a aussi des épreuves de VTT, des épreuves pour le bicross. Alors, certes, c'est des milieux différents, mais ça peut permettre à certains de mieux se spécialiser.
Bah, ça permet au moins de pouvoir donner la chance aux jeunes d'un panel de disciplines. Hein. Je vois avec la Fédération Française de Cyclisme, la Saint-Quentin, on a ce panel de faire du BMX, de la piste, de la route, du vélo en salle, hein, de faire différentes, du vélo couché, de différentes manifestations. Voilà, ça nous donne cette chance. Maintenant, tout ce qui est en salle, comme tous les autres sports, hein, c'est compromis. Hein. La piste, en ce moment, elle est complètement fermée. Elle ne sert que gérer qu'aux élites. Hein. Actuellement, elle est prise pour le vaccin, pour vacciner les gens. Donc, voilà, c'est compliqué, mais voilà, on a une chance d'avoir un panel. Après, je dirais, après, on a beau critiquer les fédérations, mais je dirais, on dépend aussi de l'ambiance actuelle de la, je dirais, comment dirait, l'éducation des jeunes qu'on a actuellement, qui veulent tout faire, tout et par quelque chose de précis. Donc
et pas rester quoi.
Et pas rester. Donc c'est très compliqué. Hein. N'importe quel sport, c'est compliqué de conserver nos jeunes. On sait très bien à l'époque, on le savait très bien qu'à 16 ans, on avait un esprit qui était différent. Mais là, c'est très compliqué. Maintenant, les jeunes à 12-13 ans, ils font souvent même 3-4 activités. Bon, c'est peut-être bien pour se développer. Pour moi, peut-être pas, parce que quand on fait une activité à 50% à chaque fois, on la développe pas forcément. On donne pas d'envie pour continuer. Donc, ils sont un peu dans le flou de toute activité et aucune vraiment précise. Donc, ils restent pas dans nos activités, que ce soit n'importe quelle activité.
Donc, ça veut dire que Julien Alaphilippe ne fait pas rêver des jeunes?
Non, pas non. Certains, il va faire rêver certains, mais pas autant.
C'est des icônes qui manquent. Tout à fait. C'est une icône.
Mais c'est ça, le vélo, c'est compliqué, parce que avant, on allait à l'école en vélo. Mm-hmm. Maintenant, je dirais, on amène les gamins à l'entrée de la classe, c'est tout juste si vous ne pas y amener avec le tapis rouge. Mm-hmm. Ce sont des contraintes qu'on a mis en place depuis 20 ans. Voilà, c'est, donc la motivation de faire du vélo pour aller à l'école, on l'a pu. Le sport le week-end, on l'a pu. Vous critiquez à chaque fois les jeunes devant une Nintendo, devant une télé. C'est ça, l'éducation fait ça, c'est plus facile d'avoir un gamin devant une télé à le surveiller que de le faire du vélo dehors ou une autre activité, du sport, du foot d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà, donc l'éducation fait que c'est très compliqué pour les fédérations pour adhérer les jeunes et très longtemps, avec un bon esprit. Il y en a, heureusement, qu'on a toujours nos purs passionnés qui sont là et qui nous fait nos sportifs de haut niveau. Mais on est toujours à la recherche dans la continuité de notre formation des jeunes.
Ouais, c'est combien le prix de la licence et de la cotisation sur Rambouillet Poigny?
Nous, on a une cotisation qui est à 85 euros. Après, on a des licences qui sont à 50 euros sur une fédération. Et pour les jeunes, pareil. Hein, pour les deux fédérations, c'est à peu près la même chose. Et on monte jusqu'à 80 euros pour les adultes, 80-100 euros pour les adultes.
Alors, c'est un sport qui prend du temps au niveau de l'entraînement. Hein. Quand on part au moins pour 3-4 heures. Ça, c'est un des désavantages. Et puis, aussi, peut-être, la sécurité. On a toujours un peu peur sur la route quand on est parent, de voir son enfant y partir.
Tout à fait, c'est une des raisons aussi qu'on a moins de jeunes. Hein, c'est la sécurité sur les routes, au global, elle est devenue de plus en plus dangereuse et le partage des routes est compliqué pour différentes raisons. Hein, autant il y a aussi des torts des cyclistes, faut pas se cacher. Hein, certains cyclistes font leur propre tort. Que ce soit de tout âge, que ce soit les jeunes jusqu'aux anciens.
Mais oui, il y a des pistes cyclables, il faut rouler dessus, il faut pas rouler à côté.
Certaines pistes cyclables, par contre, c'est ça serait bien qu'on les entretient aussi. On fait des pistes cyclables, on dit voilà, vous avez votre piste et ça fait 20 ans qu'on l'a fait, on l'a jamais revenu, il est bardé de cailloux, ils sont pas nettoyés. Là, en ce moment, au mois de novembre, c'est pas impraticable parce qu'avec les feuilles, on les nettoie pas, donc c'est plus dangereux d'aller sur une piste cyclable qu'aller sur une route, hein. Il y a plus de risques de tomber sur une piste cyclable que d'aller sur une route se faire percuter par une voiture sur certains endroits. Voilà, donc il y a toutes ces infrastructures qui sont en place, mais il faudrait développer dans le long terme, quoi que ce soit.
Alors, malgré tout, on est dans une région privilégiée, hein, pour le sport cycliste. Il y a le vélodrome de Saint-Quentin, il y a le siège de la fédération, il y a des épreuves comme le Paris-Nice, on va y venir, et le Tour de France qui partent maintenant pour la dernière étape de notre département des Yvelines. Un petit mot quand même sur la réélection du président Caillot. C'est un peu les sports. Noël Le Graët a été réélu hier pour le foot, président Caillot a été réélu pour le vélo.
Tout à fait. Président Caillot, moi, je le côtoie maintenant depuis quelques années, puis avec la Coupe de France féminine. Après, bon, il a.
C'était le meilleur choix.
Pour moi, oui. Pour moi, c'était le candidat à qui je me cache pas que j'ai voté. Oui, j'ai bien voté pour lui. Je m'en cache pas.
Il y a tout tennis, ils ont changé. Hein, ils ont mis Gilles Moreton.
Voilà. Non, mais bon, après, il avait des projets dans la continuité. C'est pas évident. On l'a beaucoup critiqué, mais on l'a beaucoup critiqué de président de fédération. Mais dans la situation actuelle avec le Covid ces dernières années. Bien qu'il pouvait dire comment qu'on allait pouvoir se débrouiller, même si avec toute la volonté qu'on veut, il y a le Covid, il y a les préfectures, il y a les autorisations qu'on ne peut pas aller autre. Donc voilà, c'est très compliqué. Et donc il y a toujours des projets qui ont été mis en place du côté sport féminin dans le vélo, ça a été mis en place. Après il y avait les candidats, il y a qu'à Faucon, et qu'à Faucon, on les voit pas sur le terrain. Sont pas présents, c'est facile à dire, il faut, mais quand on a face à vraiment on a un règlement, on a une loi qui nous interdit de faire notre sport, c'est très compliqué. Donc oui, le président Caillot, pour moi c'est une très bonne élection, son groupe voilà, qui est très bien de ce côté-là.
Alors Paris-Nice, on l'a dit, hein, ça part dans notre département des Yvelines depuis 2010, ça a été prolongé jusqu'en 2025 ce partenariat. Olivier, comment vous l'avez trouvé ce Paris-Nice cette année? Roglic va s'imposer assez largement, il va rentrer dans le club des très grands coureurs qui dans le passé ont gagné aussi cette grande course qui est Paris-Nice et qui ouvre véritablement la saison. Pour nous, ça reste encore l'épreuve phare, hein, Paris-Nice, c'est celle qui lance véritablement la saison.
Bah, c'est annoncé la saison pas des classiques, mais des courses à étapes. Mais en plus, cette année, on a encore un petit truc en plus. Il y a plusieurs phénomènes. On a les nouveaux arrivants. On a les Van Der Poel, les Van Aert.
Ils sont en Tirreno.
Mais on voit la motivation, la mentalité. C'est-à-dire les épreuves, ils sont faites. Je ne vais pas dire qu'avant, on les faisait en retrait, mais on faisait plus des épreuves comme ça par Nice en entraînement. Préparer la saison.
Certains coureurs. Bernardino, par exemple.
Voilà. Mais maintenant, on voit qu'il y a le confinement qu'on a eu en 2020. Ils vivent les courses à fond, ils se donnent vraiment à fond. Et là, Roglic, qui est vraiment prêt, qui est au top, hein, bon, je pense que ce sera certainement le vainqueur final. Il est vraiment au top physiquement. Ouais. Et puis tous les coureurs qui sont autour, on a des résultats, on a des plateaux, des classements dans les 10 premiers. Quand on regarde toutes les épreuves, c'est quand même du haut niveau, hein.
Oui, on l'avait dit l'année dernière, Olivier, vous étiez venu à ce micro pour la rentrée, pour faire le bilan du Tour au mois de septembre. Il y a eu une saison très courte, mais sur 3 mois, mais on a eu des courses fabuleuses, un très haut niveau, le championnat du monde et toutes les classiques, on s'est régalé, quoi.
Oui, mais là, c'est ce que j'espère. Ouais. Et là, c'est bien parti. C'est l'impression que ça va être sur toute l'année. Cette année. Là, on a des gros candidats qui sont présents, des grands leaders qui sont vraiment présents physiquement, et je pense qu'on va apprécier cette année.
Alors, on a eu l'occasion, nous, de vivre un peu ce Paris-Nice différemment cette année. On était dans la côte de Senlis dimanche, hein, à 2 reprises. On était à Clairefontaine, certains étaient sur Rambouillet, donc lundi. On va rappeler Saint-Cyr-l'École, 166 500 km. Victoire de Sam Bennett pour cette première étape. Elle n'a pas été aussi animée que certaines étapes du passé. On se rappelle les 2 victoires d'Arnaud Démare, hein, à Bois d'Arcy en 2017, et puis aussi à Meudon, hein, à l'Observatoire, on y était en 2018.
Un peu moins de vent.
Ouais, c'est ça.
C'est moins de vent.
Voilà. Il y a eu un peu moins de bataille.
Plus la course, ça roulait bien, mais voilà. Mais beaucoup moins de vent que les années précédentes, donc ou surtout dans le mauvais sens, hein, le vent.
Oui.
Donc ça n'a pas permis non plus à développer les échappées à long terme et puis faire vraiment la bagarre pour voilà. Mais bon.
Bah, on l'a vu dans l'étape du lundi aussi, entre Ouinville-sur-Montsian et Amilly, 188 km. Bon, ce sont des arrivées très souvent au sprint, hein, on l'a souvent vécu aussi sur Amilly. Là, cette année, il n'y a pas eu la bataille aussi escomptée.
Bolt
qui s'impose assez largement, mais pas de casse, pas de dégâts, comme il y a eu certaines années dans les lignes droites sur Retour de la Plaine notamment.
Tout à fait, mais là, ils avaient vent dans le dos. Vent dans le dos sur 95% du parcours, c'était complètement impossible de faire une échappée. Donc, il y a 2 ans, pareil, on avait le vent dans le sens inverse. Et là, je peux vous dire,
à la sortie de Barguil était tombé même.
Oui, à la sortie des temples, il y en avait partout. Et là, cette année, il y en avait partout, mais quoi, ils étaient tous regroupés, quoi. Donc voilà, c'était compliqué cette année. Je dirais, on a un phénomène. Hein, on peut avoir des beaux parcours. Les compétitions, la course se fait, aux coureurs. C'est les coureurs qui font la course.
Les coureurs qui font la
course avec des événements, des phénomènes en plus naturels, hein, Son prud'homme, il a dit, nous on fait le parcours, maintenant c'est les artistes qui font la course.
Alors, il y a eu une troisième étape un peu atypique, hein, c'était un contre-la-montre, 14 kilomètres, Gien-Gien, c'est Stéphane Bisseger, le Suisse, qui s'impose. Le lendemain, Chalon-sur-Saône-Chiroube, 188 kilomètres, là c'est les premières grosses difficultés de montagne, et c'est Roglic qui s'impose. Tout de suite, il montre qu'il est le patron.
Bah, tout de suite, parce qu'il était plus fort. Hein,
ouais, voilà.
Il est plus fort, voilà, dès qu'on appuie sur les pédales en montée, on peut pas se cacher là, hein, de ce côté-là. Autant dans une étape de plaine, on peut rester dans le peloton, que dans une étape de montagne, hein, si... Si plus fort, commence à vraiment appuyer sur les pédales, ben la preuve, il en reste que toujours 5 à 15 coureurs devant, et puis ouais, ça se règle entre eux, et puis là Roglic vraiment il est vraiment prêt, physiquement il est prêt, et puis il commence à avoir une maîtrise des
oui,
tours.
Et puis, hein. Et puis là, il sera pas battu le dernier jour, comme, ou l'avant-dernier jour, comme
pour bah, l'habitude, avait pour une seconde, là c'est.
Elle avait fait l'année dernière sur le tour.
Enfin, je dirais, la course est vraiment, finale, hein, il est pas à l'abri. Ouais. Bon, je dirais, je souhaite pas d'une chute ou d'une course, débridée. Les seconds, je crois qu'il c'est à 35 secondes.
C'est Charman, c'est celui qui avait gagné le tour l'année dernière.
Ouais, 35 hein, secondes, et puis, on a en Van Aert, il est à 48 secondes.
52 secondes, Charman. 52. Deuxième. Vaslov, donc, d'Astana, troisième, a eu 1-11. Quatrième, Izagir, pour l'instant, à 1,15, je pense que ça ne va plus bouger. Hein. Et
non,
puis ensuite, cinquième Benoît, donc à 1,34. Et le premier français, ce sera Guillaume Martin à 2,06.
Déjà, voilà. L'étape a été raccourcie en arrivant sur Nice, hein, par le fait du Covid. Et puis, bon, bah, chez Bispo, ils ont une équipe qui tient la route.
Jumbo-Visma, là, ça va le faire.
Jumbo-Visma, ils ont une équipe qui tient la route, donc ça devrait se faire.
Alors, la cinquième étape, bah, c'était... et de deux pour Sam Bennett hein, qui avait gagné entre Vienne et Bolène 200 km. Là on peut pas dire non plus qu'on ait une grande bataille hein. Ça a été un peu une étape de transition comme on dit sur le Tour de France. Ensuite donc Roglic qui a gagné la sixième étape donc Brignoles-Biot 203 km. Là c'était vraiment le plus costaud hein. Il s'est imposé pour la deuxième fois sur Sparnis. Et puis on a vu à nouveau hier donc entre Le Broc et Val-de-Mort-La Colmerne, c'était l'étape la plus difficile, 119 km. Une troisième victoire pour Primoz Roglic, et puis aujourd'hui, il y aura le plan du Var contre les Vins, 93 km, des organisateurs qui se sont adaptés aux conditions et qui ont donc fait arriver dans le sud ce Paris-Nice, mais pas Nice cette année.
Oui, ben, malheureusement, après une grosse structure comme ASO arrive, se sont adaptés.
Oui, ils avaient un plan B, je pense.
Ils avaient déjà un plan B depuis le début. Hein. Maintenant, je dirais, c'est la chance d'avoir une grosse structure, de pouvoir se réorganiser dans l'urgence. Ils le font, hein, même, je dirais, même... Depuis quelques années, même sur le Tour de France, des fois, il y a eu des arrêts qu'il a fallu modifier. Il y a 2-3 ans, quand on a eu une traverse, des manifestations qu'il a fallu arrêter.
Oui, Bernal, l'étape qu'il a fallu raccourcir, là, où Bernal gagne pratiquement le Tour, là,
voilà,
en 2019.
Donc, c'est ça, au moment où il a fallu arriver au Chalet Reynard, alors que, parce que c'était impraticable. Donc bon, ils ont une capacité à s'adapter. Puis bon, là, c'était un fait, en plus, avec le Covid, qui était très important. Après, ça a son charme. C'est-à-dire, ça va faire une étape de 95 km. Ça va être du rapide dès le début. Hein, c'est dans les certains mots qu'au début, certains coureurs aiment bien ça aussi. Hein, d'ailleurs, même sur le Tour de France, maintenant, ils arrivent à faire des étapes courtes.
Et souvent, elles sont plus spectaculaires. Hein. Voilà. Hier, il y avait aussi 50 km de moins, je crois.
Tout à fait.
Et souvent, les étapes sont plus spectaculaires parce qu'on lance la bataille plus facilement, on tombe pas au spa. Quoi.
Tout à fait. Donc là, ça peut être aussi un bon côté de ce côté-là.
Alors, Roglic, il va gagner Sparnice. Il va se rajouter à la liste des très grands, Olivier, hein, qui ont gagné, Merckx, Poulidor, certains à plusieurs reprises, Zotemelk, Roche, Kelly, Martens, Michel Laurent, Induren, Rominger, Bernard, Jalabert, Vinokourov, Landis, Contador, Wiggins, donc, et puis Geraint Thomas, et puis Richie Porte, ainsi que Bernal. Donc, vous voyez, c'est quand même des très grands qui gagnent Paris. Il y en a certains qui ont gagné, qui n'ont pas confirmé, mais les trois quarts, ça s'inscrit pour les très grands. Hein.
C'était vraiment une ossature.
Et Charman l'année dernière.
Tout à fait. Ouais. Une ossature pour l'avenir.
Oui, donc passer par Paris-Nice, c'est important. Hein. Même si certains n'ont pas gagné, comme Bernard Hinault, par exemple.
Oui, après, comme on disait tout à l'heure, Bernard Hinault s'en servait comme pour entrer dans sa saison, donc en plus en préparation. Après, enfin, c'est ce qu'il disait. Comme il disait, au départ d'une course, j'avais toujours envie de gagner. Hein. Même avec mes 3, 4, 5 kilos en plus en début de saison, je partais pour gagner.
Oui, c'est une des rares épreuves qu'il n'a pas gagné.
Oui, parce que il en a gagné tellement d'autres, et puis de cette façon que, à un moment, il faut faire un.
Allez, la pub, la musique, on y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité. www.electricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment
vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
Alors Olivier, on parlait des partenariats, on a parlé de Paris-Nice, un partenariat qui a donc été renouvelé. Et puis pour le Tour de France, c'est la dernière étape hein, qui partira maintenant de, du département des Yvelines. Ça le fait depuis quelques années, depuis deux ans, depuis 2018. Et on aura ça jusqu'en 2023.
Tout à fait, bah c'est bien, c'est un ouais. Bon. Et puis la dernière étape 2024, elle est encore cachée du départ.
Ah, hein, pour, ouais. Une bonne surprise peut-être.
Oui, une bonne surprise.
D'abord le Stade de France peut-être, mais ça sera plus compliqué après.
Sera, pour les ouais. Voilà, bon, c'est niveau organisation, ça sera tout lié avec les JO. Mais voilà, donc c'est des partenariats qui fait que. Puis bon, si c'est un travail qui a été fait par le département. Hein, c'est, ça se fait pas comme ça. ASO n'a pas choisi non plus ça. Il y a beaucoup de départements qui souhaiteraient les avoir aussi,
oui,
ces
bien
étapes.
Sûr,
hein.
Bien sûr.
Mais là, on a la chance, c'est que le département des Yvelines a fait un investissement énorme depuis plus de 15 ans.
Et dans les petits villages. Hein,
et dans les petits villages. Ouais, quand on a des départs de Paris-Nice, d'Orsonville, des Brévières.
Bah là, voilà. Même cette année, hein, le Ouainville-sur-Montcien, c'est aussi un petit village, en prénom là-bas.
C'est niveau donc ils savent bien gérer leur truc et puis bon bah c'est ça fait un plaisir et puis les coureurs le disent hein de toute façon bon, on en parlait tout à l'heure il y a des circuits fait de magnifiques circuits des paysages on a vraiment tout à faire avec la Vallée de Chevreuse on a vraiment de de quoi faire pour faire
oui,
de belles épreuves.
Il y a un passé, il y a une histoire. Au Fargis, il y a très longtemps, organisé le Grand Prix des Nations. La Stella Anquetil, sur laquelle on a eu l'occasion d'être à l'inauguration à Châteaufort, où Jacques Anquetil a souvent gagné des Grands Prix des Nations.
Donc, tout à fait. Donc c'est mythique, hein, les Yvelines. Et avant, on avait beaucoup de courses qui arrivaient sur Paris, qui partaient des Yvelines. Maintenant, il n'y a plus de courses sur Paris, mais voilà. Mais là, c'est une histoire. Même nous, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger faire des paris, les Tours des Flandres, tout ça. Les étrangers, les Hollandais, eux, ils parlent de la voiture rose, les 17 tournants, même si c'est pas une côte qui est très très dure hein, pour un certain niveau, les 17 tournants est connu dans le monde entier.
Ouais,
oui. Parce que le Grand Prix des Nations, beaucoup d'épreuves à l'époque. Donc c'est beaucoup connu des Belges et des Hollandais. Donc voilà, c'est.
Et puis aussi, cet outil, on en parle très souvent, le vélodrome de Saint-Quentin, qui est le symbole, justement, du département des Yvelines concernant le sport cycliste, hein.
Tout à fait, c'est et puis le siège de la fédération, c'est un très très bon investissement, un outil qui était utile et qui est le seul héritage des JO de 2012. Hein. Donc c'est le seul héritage et qui a été maintenu. Et oui, non, c'est un très très bon produit pour développer.
Oui, et puis il y aura donc d'ailleurs les championnats. On en avait parlé avec Jean-Louis Pelot hein, quand on l'a vu au mois de novembre dans cette émission. Il y aura à nouveau les championnats mondes sur piste en 2022, octobre 2022. Hein. Donc prenez bien rendez-vous. Hein.
Tout à fait, c'est programmé octobre 2022 les championnats du monde ben, pour refaire une préparation un peu gérée pour les JO. Et puis entre temps, une coupe du monde sur piste encore qui a programmé. Voilà, puis il y a du développement à faire autour avec le BMX qui est déjà bien en place. Et puis là, nous avons fait les championnats de France de cyclocross sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on démontre que voilà la zone, le territoire est propice à tous ces sports avec le VTT qui sera sur la colline d'Elancourt. Hein. Mmh. Donc c'est vraiment une zone qui est importante niveau développement pour toutes les activités du cyclisme.
Alors justement, c'est bien de finir avec cette parenthèse des jeux. Il y aura les contre-la-montre individuels en vallée de Chevreuse parce que on connaît la carte du Tour de France. Bon, des Jeux Olympiques, je veux dire, on connaît naturellement le parcours du Tour chaque année. Mais au niveau des épreuves individuelles olympiques, est-ce que ça va se faire? Bon, on posera la question à Jean-Philippe Gassien qu'on va recevoir au mois de mai, hein, puisque on a revu un peu les cartes et les emplacements, mais ça va se faire ou pas? C'est en bonne voie? Justement, que le fait qu'on ait le Vélodrome, Paris-Nice, le Tour de France, tout ça, fatalement, on marque des points par rapport à 2024.
C'est un point positif dans le dossier. Le dossier a été déposé puisque Rambouillet a posé sa candidature maintenant il y a 3 ans, avec Gaël et puis Marc Robert, Gaël Barbotin et Marc Robert. Maintenant, on attend, c'est un peu dans l'organisation des JO. Ce qui était aussi compliqué, c'était on était en les nouvelles élections, que ce soit la Fédération française de cyclisme, que ce soit l'UCI.
Bon, maintenant c'est la même équipe, donc
voilà. Maintenant ça va là, mais maintenant les projets vont pouvoir être redéfinis. J'irai les parcours vont être redéfinis. Question d'organisation, les JO ont leur mot à dire, même un très gros mot à dire, le COJO, l'UCI a leur mot à dire. Donc actuellement, non, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse ni positive ni négative.
Parce que les cartes ont été revues hein, pour les jeux, les parcours, mais pour l'épreuve individuelle de vélo, on ne sait pas trop encore.
Ils n'ont jamais été donnés, donc encore. Ouais, donc, pour le moment, ils n'ont pas été rejoués, mais ils n'ont jamais été donnés, puisqu'ils sont vraiment. Je pense qu'après, c'est la façon qu'on peut faire. On peut faire assez rapidement des parcours. Hein. On a la chance, on connaît justement, on en parlait avec Paris-Nice, on connaît le terrain. Maintenant, je pense que ça va se décider dans l'année. Il faut en parler à Jean-Philippe Gassien, qui a plus d'informations, si on peut avoir une réponse rapidement.
Très bien, merci Olivier d'avoir été donc notre invité exclusif de ce matin. On va remercier Guillaume hein, pour avoir de main de maître à nouveau dirigé cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Tiens, vous pourrez naturellement la retrouver très rapidement hein, en podcast dans le courant de la journée, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison. Voilà, tiens, puis la semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sport. On va parler hockey sur gazon avec le comité départemental. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Restez-nous fidèles sur l'antenne des... d'Herveux, et puis à très bientôt. Salut, merci à tous.
Régional, national et international dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, le pic attendu est plus élevé qu'avec la souche historique. C'est ce qu'a indiqué la directrice de recherche à l'INSERM, Vittoria Colizza. Dans un entretien au journal du dimanche, elle alerte sur le fait que les variants vont rendre la gestion de la crise sanitaire encore plus difficile en avril. 5 millions de Français ont été vaccinés. C'est ce qu'a indiqué hier soir le Premier ministre sur Twitter. Le ministère de la Santé a fait état de 7 300 000 doses administrées, première et deuxième injections confondues. Jean Castex a conclu son message en disant, je cite, « C'est unique, nous vaincrons le virus ». Éducation pour Jean-Michel Blanquer. La